Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, il est 8h42, c'est le petit déjeuner de l'actu ce matin, comme chaque matin. Nous sommes en Facebook Live, donc vous pouvez commenter avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, vos appels au 0826 300 300. Et juste avant, qu'est-ce qui fait parler? C'est avec Benjamin Glaize.
Oui, et forcément c'est Emmanuel Macron, Benjamin, qui fait parler dans les journaux avec son couvre-feu qui fait la une de la plupart des titres.
Hein. Oui, un couvre-feu notamment pour reprendre le contrôle, ça c'est la situation retenue par le Figaro au lendemain de cette interview du président. Partant du constat d'une situation sanitaire préoccupante, eh bien le chef de l'État assume sa stratégie pour affronter la deuxième vague, avec d'un côté réduire la vie sociale, de l'autre eh bien ne pas arrêter pour autant la vie économique. Un chiffre notamment, il est dans pas mal de journaux ce matin, près de 20 millions de Français, oui effectivement près de 20 millions de Français qui devront être chez eux à partir de 21h, et ce sous peine d'amende. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à la Provence et à Sud-Ouest que Macron reconfine la nuit. C'est un nouveau coup dur en tout cas pour la restauration, mais un électrochoc justifié par une situation préoccupante selon la Provence, avec la photo du vieux port de Marseille et cette injonction, on l'aura compris, 21h, on ferme.
Oui, et puis à part ça, il y a quand même d'autres sujets que l'interview d'Emmanuel Macron, par exemple avec l'éclair des Pyrénées qui nous parle d'un pédiatre, écoutez bien, qui a bien mérité sa retraite.
Hein. Oui, en l'occurrence un pédiatre d'Orthez, oui. Il s'appelle Henri Boucher, il faut croire qu'il aimait son métier vu l'âge auquel il a fini par prendre sa retraite puisqu'il a 80 ans. Bah oui, effectivement, Henri Boucher qui pose en tout cas, tout sourire pour l'éclair.
Il a connu toutes les générations.
Des Pyrénées, ouais, 5 générations connues d'orthésiens tout au cours de sa carrière, et donc une retraite bien méritée pour lui.
Oui, et puis la dernière fête entre copains, ça c'est pour l'équipe.
Bah oui, avec forcément en une de l'équipe, cette victoire de l'équipe de France hier 2-1 face à la Croatie du côté de Zagreb, et Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les deux compères qui se félicitent de ce résultat, de cette victoire. Ce sont d'ailleurs les deux buteurs hier soir, et grâce à ça, l'équipe de France reste à égalité de points en tête de la poule de Ligue des Nations avec le Portugal.
Oui, j'aurais bien voulu voir un papier dans l'équipe, mais je ne le vois pas ce matin sur ce qui se passait en tribune quand même hier, puisque c'était assez étonnant. Il y avait quand même 7000 personnes, 7000. Et il n'y avait pas du tout de masque chez les supporters. Ouais. Il n'y avait aucun masque, quoi. C'est assez étonnant. Donc je ne connais pas les chiffres en Croatie, comme quoi, évidemment, y compris d'ailleurs l'entraîneur. C'était assez surprenant cette image à la fin de la rencontre où Didier Deschamps avait son masque et il dialoguait avec l'entraîneur de l'équipe de Croatie. Ils se connaissent bien, depuis le temps qu'on joue contre les Croates et qu'on les bat à chaque fois, notamment, souvenez-vous, de la finale de la Coupe du Monde. Et bien lui, l'entraîneur croate, très détendu, il n'avait pas son masque non plus, quoi. Donc c'est assez étonnant. Merci à vous, Benjamin Glaize. On continue la revue de presse avec nous Étienne Jernel, le patron du Point, qui est avec nous. Bonjour Étienne Jernel.
Bonjour.
En une, l'affaire Mila. Et le récit, dites-vous, d'une défaite française.
Oui, on a oublié Mila, c'était au mois de janvier, où c'était cette jeune fille qui avait vituperé l'islam, parce qu'elle s'était fait insulter au nom du Coran sur les réseaux sociaux, et qui a été menacée de mort, de viol, de manière tellement massive qu'elle a dû être exclue de son lycée, qu'elle est cachée, maintenant elle est vie cachée de fait. Elle a encore été agressée par quelqu'un qui l'a reconnue à Malte cet été. Elle reçoit des menaces de mort absolument tout le temps. Et aujourd'hui, c'est elle qui est en exil, c'est elle qui doit avoir peur. C'est notre petite Salman Rushdie à nous, à 17 ans, vous vous rendez compte, à 17 ans. Et oui, c'est une défaite française, c'est une défaite terrible, parce que ces agresseurs, alors il y en a un ou deux, qui ont des gens qui la menacent, qui ont été condamnés.
Oui.
La réalité, c'est que c'est elle qui perd, c'est elle qui est punie, c'est elle qui est exclue, c'est elle qui doit se cacher. Ça se passe en France en 2020.
Ouais.
Mila doit se cacher. Et ce mot terrible, terrible, terrible qu'elle a écrit à sa mère il y a quelques semaines, quand elle dit « je me dis que je sais pertinemment comment je vais mourir », c'est atroce. Et ça se passe chez nous. Alors quand on entend le discours de Macron sur le séparatisme qui était plutôt clair, etc., mais on se dit « il a oublié Mila quand même dans cette affaire ».
Oui, c'est vrai. Et puis dans votre reportage, il y a des choses quand même assez édifiantes. Certains élèves qui lient dans l'ancien bahut de Mila, elle a ce qu'elle mérite.
Oui, et puis cette conviction assez répandue selon laquelle les religions méritent le respect. Non, les gens méritent le respect.
Ouais.
Les religions, le blasphème n'existe pas en France. Et c'est là où on se dit qu'on a perdu quelque chose, qu'on a raté quelque chose dans l'éducation. Ouais. Alors ils le disent à la fois par conviction et puis aussi par fatalisme, en se disant « mais elle s'attendait à quoi d'autre ?» qu'est-ce qui allait se passer ? Donc il y a une forme de renoncement, de résignation. C'est une étrange défaite.
Ouais, ouais. Elisabeth Lévy, ça suscite un commentaire chez vous avant de reprendre
Étienne Jernel. Moi aussi j'ai été frappée par les par la réaction des autres élèves. Ce qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est que toute la presse, il y a quelques semaines, a publié un grand texte ronflant sur la liberté d'expression que nous défendrons, mais enfin, plus personne ne publiera de caricatures. Quand j'ai émis l'idée que tout le monde devrait publier les caricatures
aussi,
en même temps,
j'ai pris une volée de bois vert.
Je me suis fait incendier, irresponsable, etc. Ouais. Et je remercie Le Point de faire ça, mais c'est vrai que...
Cette enquête,
c'est vrai que par rapport à cette tribune, ça laisse un peu un sentiment... peu amer.
Oui, absolument. Et puis, autre sujet dans Le Point, effectivement, c'est Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui sort du silence, hein, que vous êtes allé le rencontrer en Tunisie.
À Bizerte, et alors ça a été long, hein, parce qu'il voulait pas parler, il se planquait un peu, Bertrand Delanoë. Ouais. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il est toujours macroniste, hein, qu'il a voté Macron, qu'il probablement revotera Macron, qui est d'ailleurs entre les lignes un signe de défiance à l'égard d'Anne Hidalgo. Hein.
Ouais.
Il le dit pas comme ça, mais enfin, il parle quand même d'une forme d'ingratitude de la part d'Anne Hidalgo, mais politiquement, on voit bien, Delanoë, c'était le socialiste qui s'était défini comme libéral à une époque.
Ouais.
Vous vous souvenez, c'était en 2007.
Quand il a perdu son congrès, d'ailleurs, à cause de ça.
Voilà. Et donc, c'est intéressant. C'est une grande voix de la gauche ralliée au macronisme, d'ailleurs, qui correspond à la deuxième gauche, il faut dire les choses, Delanoë.
Ouais.
Et qui est aussi un petit caillou, l'air de rien, dans la chaussure d'Anne Hidalgo.
Oui, absolument.
Oui, il a toujours été juste un caillou dans la chaussure d'Anne Hidalgo. Vous savez, Étienne, moi je connais bien Bertrand Delanoë, connais bien toutes ses mœurs. C'est de toute façon, Bertrand Delanoë ne s'est jamais remis de son échec à ce congrès qu'il pensait véritablement gagner. C'est quelque chose qu'il a...
Donc il a gardé de l'amertume, quoi.
Il a une amertume absolument terrible. Et en fait, je ne voulais pas être cruel, mais je pense que tout le monde se fiche de ce que pense Bertrand Delanoë.
Moi, non.
La droite... Ah non, attendez. À gauche, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas...
Bon.
Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est là pour darder. On a bien compris la campagne qui commence sur Hidalgo. On a bien compris, c'est gros comme une grosse ficelle.
On se demande pourquoi.
On se demande bien pourquoi. À gauche, tout le monde se fiche de Bertrand Delanoë. À droite, la droite adore Bertrand Delanoë.
Non, mais
forcément.
Vous savez pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est que culturellement, en fait, c'est un peu bizarre, mais culturellement, Delanoë a un peu quelque chose du vieux monde, alors que Anne Hidalgo, c'est cette espèce de nouveau monde avec que des vélos partout. Franchement, Bertrand Delanoë n'a pas détruit Paris comme Anne Hidalgo est en train de le faire.
En tout cas, Étienne Germain, Le Point, vous voyez que vous suscitez déjà le débat sans avoir lu en fait vos articles avec.
J'ai lu Mila.
Bravo en tout cas. Donc l'affaire.
C'est que j'ai réussi.
Oui, absolument. Bravo Mila déjà, parce que Delanoë m'en fout un peu,
Mais je pense que.
Non, mais il y a une vraie question. Ça intéresse le petit jeu, mais il y a une question sur Mila que je me pose inlassablement, c'est comment Jean-Michel Blanquer gère, parce que quand on est à ce niveau-là, si vous voulez, Étienne, quand même de haine, de menaces, etc. Je pense que c'est l'affaire aussi personnelle du ministre. Que dit pas l'Éducation nationale, que dit Jean-Michel Blanquer sur cette affaire? Je pose la question à Étienne Jernet.
Je ne sais pas s'il est encore là, Étienne.
Je suis encore là. La question qui se pose, elle n'est pas évidente. Blanquer, on voit bien qu'il n'est pas très à l'aise avec ça.
Ouais.
C'est qu'on ne peut pas demander non plus à une jeune fille de 17 ans de prendre des risques avec sa vie.
Ouais.
On ne peut pas demander à ses parents de lui imposer ce destin sacrificiel.
Ouais.
Et c'est très compliqué. Donc,
où est-ce qu'on lui trouve un établissement scolaire? Comment la sécurité?
Il y a un établissement qui est secret, évidemment, on ne le révèle pas. Elle est cachée. L'administration, alors elle a été refusée aussi par beaucoup de lycées, hein, ce qui est terrible, ce qui en dit très très long quand même sur la lâcheté collective qu'on doit tous reconnaître. Il y a quelque chose de quand même très grave, c'est que ceux qui la menacent sont encore dans leur lycée, elle est sortie. Voilà, la défaite, elle est là. Maintenant, ponctuellement, sur le Camilla...
Non, mais elle a un lycée, Étienne.
La faire revenir avec des CRS au lycée, c'est pas évident.
Étienne, elle a un lycée, elle suit un enseignement.
Un internat sécurisé.
Voilà, mais ça veut dire que c'est quelque chose dont s'est emparé personnellement, j'imagine, Blanquer. C'est pas possible autrement.
Là où Étienne a raison, c'est que si on l'avait laissé dans un lycée public normal, même avec une protection, vous auriez une levée de bouclier des parents pour dire on n'en veut pas dans le lycée de nos enfants,
bien
c'est
sûr,
dangereux,
je pense que
etc.
C'est ce qui est arrivé, hein, de toute façon. Oui, bien sûr, je suis d'accord.
Bon, voilà, et puis aussi une rencontre avec Emmanuelle Charpentier, hein, puisque donc, c'est elle qui a eu le prix Nobel de chimie, et donc il y a une longue interview dans Le Point. Je crois que d'ailleurs.
Sur les OGM.
Oui.
Sa personnalité est fascinante, son histoire et sa grande liberté sont fascinantes. Et puis son discours, il faut écouter son discours, ce qu'elle raconte sur les OGM. Ouais. Nous sommes tous des OGM. Nous, les êtres humains, mais les animaux aussi, et les plantes, nous modifions notre code génétique à chaque instant. Donc cette espèce de croisade absurde, obscurantiste de certains écologistes sur les OGM, et bien au-delà des écologistes d'ailleurs. Hein.
Ah oui, c'est pas que les écologistes, hein, c'est une croisade culturelle française, hein, Étienne.
Voilà, des amis.
C'est absolument tragique, tragique, parce que d'abord ça repose sur rien. Et quand on voit notre ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, Frédéric Vidal, qui se félicite de ce prix Nobel soi-disant français, hein, à l'Institut Max Planck quand même, et qui, il y a deux ans, se félicitait d'une décision de la Cour européenne de justice qui classait CRISPR-Cas9, son invention, parmi les OGM, et donc qui confirmait son interdiction, l'interdiction de son usage pour l'agriculture. Ben voilà qui est bien terrible et terrifiant. C'est quand même un festival de tartufferie.
Oui, absolument. Jennifer Doudna, qui a eu partagé le prix aussi avec Emmanuelle Charpentier, hein, l'américaine, et toutes les deux, elles ont travaillé donc voilà, sur ces recherches à l'étranger, hein, puisque évidemment, elle n'est pas en France, elle avait été recalée notamment à l'Institut Pasteur. Merci en tout cas à vous, Étienne.
Merci à vous.
Merci, Étienne Jernel. À propos, parce qu'on parle en fait de ces interrogations où voit la France, hein. On aura Franck Ferrand tout à l'heure sur l'année de Jeanne. C'est un récit en fait assez incroyable, c'est un roman d'anticipation, mais quand même qui nous pose et qui nous interpelle, qui pose des questions et qui nous interpelle sur le destin en fait de la France. Écoutez, soyez bien là tout à l'heure à 9h30. Christophe Julie aussi sera, vous savez, la France périphérique, il sera l'invité d'André Bercoff qui va recevoir aussi ce midi avec son nouveau livre. Bercoff qui va recevoir aussi le professeur Perron. D'un mot sur toutes les deux, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy et puis les auditeurs au 0826 300 300, sur l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Françoise, vous vous dites que c'est un moindre mal, c'est ce qu'il fallait faire, quoi.
En tout cas, il fallait faire quelque chose. Vous savez, le président de la République, il est toujours piégé, pas Emmanuel Macron comme les autres. C'est-à-dire que s'il dit quelque chose, c'est pas assez, ou c'est trop, ou c'est pas assez. À l'évidence, il fallait faire quelque chose. Et à l'évidence, ce que je vois dans toutes les enquêtes qui ont précédé et les enquêtes qui arrivent, c'est que loin de nos effets de tribune en plateau et de nos chamailleries, les Français, il n'y a pas de sujet pour eux. Bien sûr que nous, on en parle. Ouais. Mais je veux dire par là que les Français, en tout cas, dans une massivement, sont pour des mesures assez dures. Ouais. Parce qu'il y a la peur, probablement, parce qu'il y a une angoisse sanitaire et ça. Donc, moi, je me dis, il fallait faire quelque chose, donc il a fait ça. Ouais, ouais. Personnellement, j'ai mon inquiétude, la seule chose que je redoute, je vais vite, c'est que ce qu'on nous laisse entendre, même si les restaurateurs le nient, ce qu'on nous laisse entendre du côté de l'Élysée, c'est que si dans 15 jours, ça ne fonctionne pas, le couvre-feu pourrait être ramené à 20h. Ouais. Et si ça ne fonctionne pas, c'est là que hier a été pris un décret en Conseil des ministres, justement pour permettre au gouvernement de pouvoir confiner et limiter les déplacements. Ouais. Donc, moi, j'ai peur que on soit à la fin obligé quand même de faire du reconfinement ciblé parce que
Elisabeth,
moi je suis quand même un peu frappée par les termes que vous employez, ma chère Françoise. Nos chamailleries, c'est-à-dire que on est en train d'imposer des restrictions énormes à nos libertés et si on les critique,
moi j'ai pas d'angoisse avec ça.
Et si on les critique, ce sont des chamailleries. Non, je veux dire, il y a quand même une question grave qui se pose. Je redis un peu ce que j'ai dit dans ma chronique, mais pardon, si vous voulez, il n'y a pas que l'économie et la santé. Si vous voulez. Nous ne sommes pas des homo economicus, simplement. Donc le fait que le président ne prenne en compte que cela, c'est-à-dire, et encore, pour l'économie, honnêtement...
Il y a tout un secteur qui est touché.
Ça ne va pas être le seul. Hein. On va voir au fur et à mesure qu'il va y avoir des tas de secteurs touchés. Personne ne va aller dans les magasins pendant cette période. Vous verrez que ça va être terrible. Ouais. Donc, je trouve en tous les cas que
parce qu'il y aura moins de monde, justement.
Oui, mais vous êtes sage, Patrick. Cette façon, si vous voulez, de nous réduire en disant, finalement, on arbitre entre deux choses, mais à aucun moment, si vous voulez, la question de la vie humaine humaine, de l'existence, de la densité de l'existence humaine ne joue pas, me paraît ne pas aller. Je suis navrée, je ne vois pas en quoi les théâtres, par exemple, je prends un exemple, les théâtres ont fait d'énormes efforts, ils ont fait des répétitions dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont essayé de limiter le nombre de gens dans certaines productions. Moi, j'ai des amis qui font de l'opéra, je veux dire, qui ont vraiment fait des efforts pour s'adapter. Et ça coûte très cher de monter un opéra. Si vous l'arrêtez au bout de 8 représentations, c'est terrifiant.
Allez, 0826 300 300, c'est Jeff qui est avec nous. Attendez, c'est Jeff qui est avec nous. Bonjour, Jeff.
Bonjour. Oui, bonjour à tout le plateau, bien évidemment. Je vous écoute depuis ce matin. Et très grand plaisir d'avoir entendu une nouvelle fois le professeur Toussaint nuancer ce qui nous a été dit hier soir. Et ça sera avec plaisir qu'on écoutera de nouveau le professeur Perron, qui lui sera avec André Bercoff à midi.
Ah bah bon, vous faites bien la promo, Jeff.
Non, mais il faut, parce qu'il faut ramener peut-être un peu à la réalité. Je vais aller très vite, mais en quatre points. Hier soir, Monsieur le Président de la République nous a absolument pas parlé de tout ce qui avait été promis par Véran et compagnie, c'est-à-dire les lits supplémentaires en réa, et notamment l'amélioration en tant que matériel, mais également personnel, de l'infrastructure hospitalière. Et ensuite, nous avons, je dirais, un déguisement, c'est carnaval avant l'heure, nous avons... alors voilà, les métros, les stations de métro chez vous, là-haut à Paris, dans toutes ces grandes métropoles, c'est gavé de monde le matin de la sortie le soir, mais on ne peut pas aller dans les restos. Madame Lévy vient très bien rappeler notamment les théâtres, les lieux de spectacle, mais allons-y, je vous ferai un résumé très simple après de mon avis sur le discours de Monsieur Macron. Je continue, parce que l'on ne parle pas, comme Monsieur Toussaint notamment l'a dit, redit ce matin, l'OMS a dit très clairement que les confinements et les mesures prises chez nous, ce n'est pas la bonne solution. Il a bien appuyé comme quoi il fallait équiper les structures hospitalières. Encore une fois, non, ça, M. Macron a évité le sujet. Et j'irai plus loin, j'ai d'ailleurs posté sur votre lien Twitter ce matin le graphe qui a été établi le 21 septembre de la létalité en France, des morts en France, sur les trois dernières années, dont cette année. On a effectivement une vague qui est en mars, mais je ne sais plus, je crois que c'est le professeur Toubiana, lui, qui avait expliqué qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague dans les virus. Mais non, on parle de cette deuxième vague. C'est faux. La deuxième vague, ça sera une nouvelle vague, ça sera un nouveau virus. Donc, je vais terminer. On autorise les gens quand même à aller se déplacer en vacances. Alors, moi, je vais vous dire, je travaille dans l'immobilier. L'immobilier. Mais que les gens viennent, dans nos campagnes limousines, du Lot, de la Dordogne, s'implanter, ils seront plus tranquilles
de ça, c'est vrai.
Que dans ces métropoles où on les met sous cloche.
Parce que
là, moi, j'ai l'impression qu'on vous met sous cloche dans
ça, c'est vrai.
Et que,
moi, je fuis les grandes villes. Je suis comme vous.
Moi, je vais aller vivre dans le Lot.
Voilà, on vous retient, je termine, on vous retient encore dans un déguisement où dans toutes ces grandes métropoles qui ont été citées, eh bien, il y a des problèmes de délinquance. Donc, moi, pour moi, c'est du déguisement, on ne nous dit pas tout. Et je terminerai en disant que, pour résumer, en fait, c'est quoi le discours de M. Macron? C'est travailler, travailler et fermer votre gueule. Parlons franc, parlons vrai. Écoutez, moi, je m'en tiens à ce que disent ceux qui sont appelés les rassuristes. Je n'y crois plus à ce discours qui est la peur. C'est une guerre psychologique, il l'avait dit Macron, une guerre, oui, mais elle est psychologique, la guerre.
Bon,
voilà. Encore merci à vous de m'avoir donné la parole.
Vous le savez, le standard vous est ouvert, 0826 300 300, tout le monde a le droit de s'exprimer, et vous en particulier, Jeff, et bien sûr tous les autres auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réécouter d'ailleurs aussi l'interview du professeur Toussaint qui était avec nous donc tout à l'heure, c'est vrai, à 8h10, particulièrement intéressante. Et le professeur Perron, c'est vrai, sera chez Dédé Bercoff à la mi-journée. Dans un instant aussi, sur les tests salivaires. Nous allons en parler avec l'un des concepteurs à Montpellier. Tout est prêt depuis des semaines. Pourquoi c'est pas lancé? On va voir ça dans un instant.
Restez avec nous.
Ça va nous énerver.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Elisabeth Lévy, Françoise de Gois sont là. Vos appels 0826-300-300. N'hésitez pas à nous laisser des messages, bien sûr, sur Facebook. Et on va revenir sur les nouveaux tests salivaires.
Oui, bah c'est ça.
EasyCov, oui. Entretien avec l'un de ses concepteurs ce matin, Franck Molina, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire 6 de Diag.
Oui, bonjour Franck Molina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ce matin, il y a eu... hier soir, si on revient sur hier soir, Emmanuel Macron, il a évoqué, évidemment, le dépistage à la fin, dans sa dernière partie, et en parlant, en fait, des tests. Hier matin, nous avions Catherine Hill, l'épidémiologiste qui était chez nous, qui a dit qu'il fallait procéder à du dépistage massif, qu'il y avait un tas de possibilités avec des tests, et notamment les tests salivaires. Est-ce qu'ils sont au point, vos tests salivaires, Franck Molina ?
Oui, ils sont parfaitement au point, ils marchent très très bien, et voire même mieux que prévu. Ouais. Alors ça c'est la nouveauté, en fait, c'est la nouveauté de l'été, mais bon, voilà, on a continué à travailler. Ils marchent extrêmement bien, à un tel point qu'on commence à s'interroger si les performances ne sont pas supérieures aux tests nasopharyngés, et ce sont des données qui vont sortir dans les jours qui viennent.
Mais ah oui, c'est vrai. Ouais.
Oui, oui, à ce point. Et d'ailleurs, c'est pas complètement une surprise. D'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas les seuls dans le monde à développer des tests salivaires. On a été parmi les premiers. Hélas, vous avez vu qu'il y a eu des ralentissements. Mmh. Bon, les habitudes sont pas faciles à changer. Mmh. Et voilà. Et après, je crois que l'intervention d'hier soir nous a enseigné quelques petites choses quand même.
Oui, oui. C'est-à-dire ?
Bien que les habitudes sont toujours difficiles à changer, et lorsqu'on les change, on les change surtout bien conseillés par les grands groupes. Et donc, moi, je ne suis pas contre ça du tout, mais je crois que ce qui prime, c'est la diversité et la stratégie et l'efficacité sur le terrain des tests, ouais. Et pas seulement les influences des grands groupes qui imposent leurs solutions, qui, soit dit en passant, pour certaines, ont beaucoup d'intérêt. Hein. C'est ouais. Pas du tout.
Vous parlez de quelle solution, alors, Franck Molina, derrière là.
Je pense, par exemple, aux tests antigéniques, qui sont ouais. Appelés de mes voeux aussi depuis longtemps, parce qu'il fallait aller sur le terrain. Ça, c'était lors de la première crise. Alors, c'est bien, on les met en place aujourd'hui, enfin, nous sommes tout de même en octobre, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont des tests qui, pour le moment, ont des performances bien moindres, par exemple, que les tests salivaires, mais aussi que le nasopharyngé. Et ce n'est pas forcément un problème.
Non,
mais enfin...
non, je voulais. Attendez, Françoise, oui. Laissez. Non, mais Françoise, s'il vous plaît, laissez. Laissez Franck Molina quand même continuer, en fait, sur voilà. Les tests antigéniques. Oui, oui.
Et après, vous réagirez. Je trouve que les tests antigéniques, il faut les développer, et je l'ai dit très tôt pendant la crise, parce qu'ils amènent un plus de flexibilité sur le terrain. Ouais. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du dépistage de terrain, et de la même manière que je dis que les grandes plateformes ne sont pas l'alpha et l'oméga d'une politique de dépistage. Ouais. Donc aujourd'hui, moi j'entends tout à fait et je suis ravi d'ailleurs que les tests antigéniques arrivent sur le terrain, mais comment peut-on autoriser d'un côté des tests qui sont à 60% de sensibilité et pas autoriser des tests qui sont à 90%?
Ouais, ouais, c'est ça. Là. Ouais. Et alors sur les tests salivaires, pourquoi justement, puisqu'ils sont mis au point, vous l'avez dit, depuis un certain temps déjà, pourquoi on n'arrive toujours pas à les utiliser? Pourquoi ils ne sont pas distribués?
Alors d'abord, ils sont distribués, ils sont utilisés, mais en France, depuis, on va dire, très précisément mi-juillet, le test est distribué depuis juin, avec, on va dire, une première version qui, depuis, a progressé. Mais en juillet, il s'est passé un événement où Olivier Véran a préconisé, par exemple, ce test dans les aéroports. Ouais. Et là, levée de bouclier. Ouais. Levée de bouclier, pour des raisons que j'ignore et peu importe, ça ne m'intéresse pas. Mais qui n'était pas justifié par des données scientifiques, puisqu'à l'époque, non, le test de dépistage de terrain attendait la PCR nasopharyngée, c'était à l'époque. Donc que c'eût été des tests antigéniques ou de salivaires, ça aurait été la même chose. Donc à l'époque, c'était le concept d'aller sur le terrain qui ne devait pas être aussi moins bon que le laboratoire. On a vu qu'on a enfin changé de doctrine, et c'est heureux. Maintenant, depuis, les tests salivaires ne sont pas fiables, ça c'est Jean-François Delfrécy qui nous le dit. Les tests salivaires sont, d'une part, le prélèvement, parce qu'il faut bien séparer les techniques, là il faut parler général. Le prélèvement salivaire est un très bon prélèvement, et probablement plus précoce que le nasopharyngé. C'est pas moi qui le dis, c'est la littérature internationale qui le confirme et qui le démontre. Voilà. Et ensuite, il y a les techniques, alors de terrain ou de laboratoire, peu importe, j'ai envie de dire.
Oui, oui. Mais alors pourquoi on vous bloque? C'est la haute autorité de santé?
Non, je ne le prends pas comme un blocage. Grands... Je crois qu'il y a de l'inertie qui est impressionnante.
Bah oui,
je vous donne un exemple concret. Nous avons envoyé des données récentes du fait d'un test en drive sur le terrain. Il y a à peu près plus de 2 semaines à la Haute Autorité de Santé qui n'a jamais demandé de renseignements complémentaires, qui ne nous a jamais contactés et qui nous a contactés hier soir. Bon, peut-être parce que c'est un petit peu l'actualité. Donc on n'est pas dans l'urgence en fait. Et je crois que c'est pas un blocage particulier qui nous concernerait. Je crois qu'on est dans des systèmes qui sont lourds, compliqués.
Non mais c'est dingue quand même d'entendre
moi,
ça.
J'ai vraiment une question à vous poser, parce que c'est super important, parce que vous appuyez sur un point fondamental. Les tests antigéniques sont utilisés par les Allemands et les Italiens depuis 3 mois. Vos tests salivaires, à mon avis, donnent aussi de très bons résultats. Est-ce qu'on peut se dire les choses que sur cette deuxième vague de tests, c'est exactement comme sur la première, où la France a refusé les tests allemands parce qu'il y avait derrière l'INSERM et l'Institut Pasteur qui ne voulaient pas au nom de la souveraineté française. Est-ce qu'on peut se dire les choses plutôt que de tourner autour du pot sur des blocages administratifs? Il y a un blocage de souveraineté ou pas?
Alors, j'aimerais bien que ce soit un blocage de souveraineté, et je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Je rappelle au passage. Si c'était ça...
Sur les premiers tests, c'était ça.
Je vais vous répondre très précisément, parce que je pense que ce que vous dites est une partie de la réponse, mais hélas, pas seulement. Si ce n'était qu'un problème de souveraineté, on aurait envie de dire, ben finalement, on travaille... le long terme. Mais quand regardez notre solution, nous on l'a conçue au moment où les frontières étaient fermées, donc elle est 100% française, produite en France, et je suis persuadé qu'on n'est pas paranoïaque, on nous soutient et on aimerait bien que ça sorte. Qui résiste? Comme vous l'avez dit, c'est les institutions. Donc ce que vous dites dans votre propos concerne 2 choses. Vous avez parlé de souveraineté et d'institutions. Mais moi je pense que ce sont... Alors, des institutions, et pas qu'une, des orgueils individuels.
Pasteur
mais pas
et
que,
l'INSERM, on peut y aller, hein, on peut le dire.
Et qui passent derrière la souveraineté nationale et derrière la stratégie et l'efficacité sanitaire. Ouais. Donc je n'ai pas peur de le dire et je vous dis les choses. Je ne suis même pas sûr que ce soit un sujet de souveraineté nationale, hélas, parce qu'on achète quand même des tests qui sont étrangers. Et quand le test Abbott, par exemple, pour ne pas parler européen, le test Abbott qui arrive, tout le monde l'encense. Ils préfèrent l'encenser avant de voir les résultats. Et par contre, quand vous avez un test qui n'est pas d'une institution qui se sent dépossédée de la crise virale, alors il faut regarder des résultats complémentaires, s'il vous plaît. Très bien, on vous en donne. On l'en donne, ils ne les regardent pas. Donc voilà, je suis assez d'accord qu'en ce moment, il y a un petit dysfonctionnement, mais qui est plus humain et institutionnel que souveraineté nationale.
C'est ce que disait Catherine Hill, et donc ça va complètement dans ce sens. Mais alors, bon, deux questions rapides pour terminer, et pratiques. Quand est-ce que finalement ils vont être déployés à grande échelle? Qui pourra les utiliser? Est-ce qu'on pourra le faire nous-mêmes, ces tests salivaires ou en pharmacie ou autre? Et le prix, parce que j'ai cru comprendre que c'était moins cher que les tests PCR, hein.
Ah bah, évidemment, comme tous les tests de terrain, ils sont moins chers. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent moins de matériel, moins de consommables. Et en plus, figurez-vous que les gens les ont conçus comme ça, parce que les niveaux de remboursement ne sont pas les mêmes. Donc oui, le coût est moindre, et surtout l'efficacité en termes sanitaires, et même sans parler sanitaire, en termes d'efficacité pour juguler cette crise, y compris économique, est bien plus élevée. Donc le coût est bien moindre. Déjà, le coût est 3 fois moins cher, mais en plus, le coût économique derrière est moindre. Je n'arrive pas à comprendre ces résistances qui sont dogmatiques. Voilà, le terme, c'est dogmatique.
Dogmatique, absolument. On marche complètement sur la tête. Merci, hein, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir au téléphone. Franck Molina, donc directeur de recherche du CNRS et du laboratoire 6 de Diag. Hein, c'est du côté de Montpellier. Merci à vous, vous êtes très nombreux à nous écouter du côté de Montpellier. Babette de Rosière, Cécile est avec nous. Hein.
Oui, bonjour Babette.
Bonjour Babette.
Bonjour, vous m'excusez ma voix parce que je suis encore à l'hôpital. Je viens d'enlever à côté du
restauratrice,
oui. Là.
Vous vouliez réagir à ce qui a été annoncé, parce que vous êtes restauratrice, on vous connaît bien, cuisinière. Et là, c'est Babette de Rosière qui est derrière les fourneaux, entre guillemets, hein, qui voulait répondre à Emmanuel Macron.
Absolument, parce que la restauration, c'est ma profession, en dehors du fait que je défends aussi la restauration au sein de la région de France. Ouais. Mais je pense que le président a une fois encore condamné sévèrement les restaurants. C'est une mise à mort du restaurant, ils ont tout ça scandaleux. Et ce que je trouve encore plus scandaleux, c'est qu'il se permet de prendre des mesures sans concertation, alors que le peuple est souverain et représenté. Je ne comprends pas. J'ai l'impression de vivre une vraie petite dictature. Voilà ce que je pense. Ouais. Parce qu'une profession comme la nôtre, je ne comprends pas pourquoi un couvre-feu à 21h au lieu de 22 heures. C'est pas une heure de plus qui aurait une conséquence sur le virus. Donc je comprends pas. On a demandé aux restaurateurs de respecter les zones barrières. Ouais. Ils ont tout mis en ordre pour respecter un plan sanitaire drastique. Ouais. Les clients sont très protégés, surprotégés dans les restaurants. Ouais. Je pense qu'il y a un endroit où on les protège, c'est bien là. Parce qu'on a l'habitude de la discipline, ils portent des masques, on respecte les distances, on applique le plan sanitaire, on prend même des températures, on écrit les noms et les numéros de téléphone et tout se déregistre. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander de plus? Est-ce qu'ils pensent aux restaurants qui ferment le midi et qui n'ouvrent que la nuit? Ouais. Ce sont des gens qui sont fermés. On va vers des drames sociaux, on va vers des drames familiaux, des dépôts de bilan, des dissentiments, catastrophes. Voilà vers où on va. Mais il y a une chose qui m'étonne, je vais te le dire. Les assurances, tous les restaurateurs payent des primes de perte d'exploitation. Ouais. Jamais le gouvernement a mis un pavé dans la mare pour parler des assureurs. On a l'impression qu'ils couvrent les assureurs. Ils sont de connivence avec eux pour empêcher de payer les pertes d'exploitation. C'est bien beau de lui donner des aides, mais les aides, ce sont des dettes. Ce sont des dettes qu'il faut rembourser. Mais, en revanche, les charges qu'on a d'eau, de téléphone, de loyer, ça reste là. Et l'État est déjà très agressif. Le service de l'État nous envoie déjà des commandements d'huissier. Ils envoient des ATD, ils saisissent sous les comptes. L'EDF ferme l'électricité. On ne nous fait aucun cadeau. Et en plus de ça, les propriétaires commencent à envoyer déjà par voie d'huissier pour viser la clause résolutoire pour casser le bail. Où va-t-on? Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai été déçu de voir ce président de la République. J'avais l'impression qu'il allait faire une conférence solennelle s'adressant au peuple. Il n'a même pas regardé le peuple, il regardait les deux personnes qu'il interviewait. J'avais l'impression que c'est une conversation entre amis. C'est se foutre de la gueule du monde. Et ces questions-là ont été préparées en amont. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous, vraiment. Bon. Parce que quand est-ce que le gouvernement comprendra qu'on n'est pas des enfants, des moutons? Quand est-ce qu'il comprendra qu'il faut nous parler en adultes? Quand est-ce qu'il comprendra que ça va mal? Déjà au départ, ils ont mal géré. Ils continuent encore à mal gérer. Qu'ils lisent dans les livres s'ils ne savent pas.
Bon, le cri du cœur et de détresse. Hein. Merci Babette, bon rétablissement, parce que je sais que vous traversez une petite passe difficile, mais ça va aller.
Non, je n'ai pas fini, je vais te dire une chose.
Oui.
Moi, dans mon mandat politique délégué à la gastronomie, avec Valérie, on a fait venir tous les restaurateurs, tous les corps de métier, et c'est grâce à nous qu'ils ont ouvert là, dernièrement, ils devaient les fermer, ils ont ouvert. Maintenant, on nous a dit à 22h, et voilà, patatras, nous sommes à 21h. Qu'ils aillent tous se faire foutre, parce que ça suffit maintenant. Il ne faut pas prendre les restaurateurs pour des cons. Ce sont des gens qui ont besoin de travailler, qui ont des familles à nourrir. On va avoir des drames, des suicides. Ça a commencé déjà, il y a des chefs qui se sont déjà suicidés. Où est-ce qu'on peut aller dans ce pays-là? Concerter le peuple. J'espère que le peuple aura bonne mémoire le jour des élections. Parce que c'est là que nous sommes forts.
Merci. Merci Babette de Rosière. Bah, du coup, derrière, c'est sans commentaire. Hein, après vous avoir entendu. Merci Françoise Degoy, Elisabeth Lévy et tous vos appels. Hein, beaucoup de messages, évidemment, de soutien. Dans un instant, c'est Franck Ferrand. Alors restez bien à l'écoute dans un instant, parce que Franck Ferrand, vous avez l'habitude de l'entendre sur l'histoire, hein, revenir sur des grandes périodes ou sur les territoires, quand il a commenté encore le Tour de France. C'est absolument merveilleux à chaque fois. Mais là, c'est un roman d'anticipation.
Un conte politique. Qui s'appelle L'année de Jeanne. En fait, juste pour dire que finalement, on attend un sauveur pour sauver la France qui est dans un chaos total. On est en 2070 et on fait un retour en arrière sur l'année 2020 et vous allez voir que c'est hallucinant.
Ouais.
On reste ensemble, c'est Franck
absolument,
Ferrand.
Ce sera Valérie Plomb. Expert ensuite, évidemment, émission spéciale, et André Bercoff aussi, avant de retrouver tous les programmes de l'après-midi, bien sûr.
À 9h21, à tout